Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Je pense que... Eh bien, bonjour à tous, nous voici donc revenus dans les arènes de l'écologie. On est mercredi 1er octobre. Et comme chacun sait, on n'a toujours pas de ministre, c'est quand même incroyable, mais on s'y attendait un petit peu. Ceci étant, on a quand même quelques nouvelles. Ben,
qu'est-ce qu'on a comme nouvelles?
Pour les nouvelles, on va en reparler dans la prochaine émission sur l'océan, mais bon, on a quand même franchi une septième limite.
Le traité de la haute mer.
Oui, il y en a plus que deux. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura franchi les neuf limites?
Ça, c'est une bonne question aussi pour le salon du livre et de l'écologie.
Eh bien oui, donc effectivement, ce sera une émission spéciale livre et écologie avec le Felipe qu'on va présenter, avec Pauline, avec
Daniel.
Voilà. Et puis avant cela, on a aussi Dalia qui est en ligne. Bonjour Dalia, tu es bien en ligne? Oui, je t'entends très très mal. Je t'entends au téléphone, mais je ne pense pas qu'on t'entende sur les... Je vais dire à la régie qu'on ne voit strictement rien avec les reflets de ce qu'ils nous montrent au...
Es-tu déconnecté Bluetooth?
Voilà. Voilà. C'était naturellement un petit problème de connexion. La technique, c'est tellement formidable qu'on oublie toujours qu'il y a un bouton à presser. Bon, est-ce qu'on t'entend, Dalia, sur notre antenne?
Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce qu'on m'entend, Dalia?
Oui, bien sûr.
Oui, bah parfait. Oui. Alors, super. Oui, bah écoute, Dalia, on va commencer par toi. Donc, parce que c'était quand même un peu une surprise que de voir qu'était apparu des manifestations après le 26 septembre, dont tout le monde nous avait rabattu les oreilles, puisque c'était la journée de la FNSEA, le 27 au soir, j'ai découvert qu'il y avait le lendemain, donc dimanche, une manifestation, des manifestations à peu près dans toute la France. Et ouais. Je suis allé à côté de celle qui était la plus près de chez moi, à Antony, mais il y en avait aussi à Paris. Mais je me suis posé la question quand même, comment on peut lancer comme ça un mouvement spontané, je ne sais pas, j'ai cru voir que ça avait été lancé au tout début septembre.
Et il y avait quelques affiches sur le tiers-lieu.
Oui. Alors l'organisation en elle-même, en fait, on l'a lancée il y a plusieurs mois.
Alors on t'entend pas très bien.
Vous m'entendez pas bien?
On demande à la technique.
Oui. Allô.
Bon, écoute Dalia, on va essayer de régler le problème, mais là, effectivement, on n'a aucune assurance que tu réussisses à passer à l'antenne.
Ok.
Oui, c'est pas de la censure, il faut le
non,
dire.
Non, bien évidemment. Donc, bon, on va peut-être rentrer à parler du Felipe, et puis dès qu'on a réussi à gérer ce problème de technique, tu reprends la parole. Tu prends la parole quand tu veux, et comme ça nous donnera un signe de savoir si on t'entend ou pas. Ok. c'est bon, désolé, c'est de l'improvisation lambda. On découvre un peu notre nouveau studio, et c'est facétie. Mais bon. Pauline, Laurence. Donc nous voilà, on va parler du Felipe et on reviendra sur nos...
Désolé, mais c'est ça le problème du son. Évidemment, avec l'écriture, c'est quand même plus simple. Bon. Voilà.
Alors, donc le Felipe qui va se tenir ce week-end, le samedi 4 et le dimanche 5.
Exactement.
Je vous laisse nous dire où, je le sais, mais...
À l'Académie du Climat, pour la troisième année.
D'accord.
Mais c'est...
Alors pour les...
Ce n'est pas notre troisième année de Felipe.
Non, j'ai cru voir que c'était la 23e année.
Voilà.
Ah oui. Et avant, ça se trouvait où? avant l'Académie du Climat, vous avez...
Alors, on a été longtemps nomades. Et je dis on était parce que je pense qu'on a trouvé un bon endroit. On est très bien accueillis en plein centre de Paris, dans l'Académie du Climat. Et auparavant, le festival est né...
Vous l'avez fait à la Bellevilloise aussi.
Oh oui, mais avant ça, le festival est né dans le 18e arrondissement, au moment du changement de municipalité. Et c'était au début, un jour, enfin c'était au mois de novembre, un jour où il pleuvait, des cordes, et c'était sous des barnums, dans cet espace qui est devenu les Jardins des Holmes, qui était une grande friche très boueuse. Mais c'était déjà attendu et formidable d'avoir justement les livres un peu à l'abri. Et après, on a été au Trianon, qui est une salle de spectacle dont on occupait le jardin d'hiver. Puis au 104, qui venait d'ouvrir dans la période froide du 104, où c'était dans tous les sens du terme glacial, aussi bien l'accueil que le lieu. Et puis après, bien évidemment, on est allé à la Bellevilloise et c'était très chouette comme endroit. Puis au 100 rue de Charenton, donc on a entamé un tour de Paris par les quartiers nord et est, et ça nous va bien parce que c'est aussi ce qu'on défend, une écologie pas du tout hors sol mais dans sa relation à la société. Et ensuite nous étions à Grande Contrôle, un lieu d'événementiel qui ne nous correspondait pas vraiment.
Près de la gare de Lyon.
Voilà, derrière la gare de Lyon, qui est plutôt un lieu de fêtes et de rencontres festives. Pas que notre festival ne soit pas festif, mais disons que l'accueil qu'on a eu n'était pas ce qu'on en attendait. Et nous voici maintenant donc à l'Académie du Climat, où nous espérons rester.
Ça vous convient
beaucoup
mieux, parce que c'est plus
Déjà, le lieu est dédié entièrement, alors climat, écologie quand même, en général, hein, pour ceux qui connaissent le lieu. Il y a des ateliers, nous aussi on fait des ateliers. Enfin, il y a déjà tout un travail préparatoire qui est excellent.
Et donc, vous pouvez faire un bilan aujourd'hui, après plus de 23 ans.
23, c'est la 23e année là, que nous allons... faire notre festival. Il y a une année qui a sauté, entre guillemets, parce que c'était le Covid. Hein, donc, comme tout le monde, on a mis le festival entre parenthèses. Et bilan...
Non, alors je vais poser la question autrement. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une montée en puissance de ce sujet-là dans le monde, parmi les libraires, parmi les collections, parmi les éditeurs? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très porteur?
Alors, on va répondre toutes les deux avec Pauline. Ouais. Moi, je vais répondre peut-être du côté de la littérature jeunesse, que je connais mieux parce que je coordonne le prix du livre Jeunesse Écolo.
On en parlera après.
On en parlera, ouais. D'accord. Oui, on va certainement en parler. Et là, on sent qu'il y a eu un avant et un après effet dans les années, il y a 5-6 ans, quand Greta Thunberg est montée en puissance et qu'il y a eu, je crois, l'année où elle-même, on a commencé à la connaître, il y a eu 6 ou 7 livres pour enfants sur la vie et les actions de Greta Thunberg. Donc voilà, c'est une façon d'entrer dans l'écologie, c'est de passer par les biographies des personnes, par exemple Pierre Rabhi aussi, une biographie chez Actes Sud, voilà. Donc
oui, personnalité qui incarne.
Oui, voilà. Et puis je dirais que se développe aussi tout un courant très intéressant de livres, des documentaires qui sont fictionnés. Ou par exemple, je peux citer le prix du livre Jeunesse Écolo de l'année dernière. C'était la petite hérissonne. Ça raconte l'histoire du hérisson, voilà. Bon. Mais il y a des petits pavés documentaires qui agrémentent le livre et qui font que, voilà, il y a la fiction, l'histoire et le document qui sont pas juxtaposés simplement, qui sont vraiment liés. Et c'est un exemple parmi d'autres.
Hein. Donc vous voyez évoluer la forme des livres durant ces 25 ans. Donc Oui. 23 ans. Donc,
Oui, et j'ai l'impression que c'est un peu fini la mode des livres très injonctifs du style il ne faut plus prendre l'avion, il faut ranger ses déchets, etc., etc. Tous les conseils qu'on donne via les enfants en fait, aux parents. Mais les enfants, les pauvres, ce n'est pas eux qui sont des prescripteurs dans la vie quotidienne d'une famille. Donc, même si leur voix est de plus en plus importante, même si on demande aux adultes de les écouter, il y a de moins en moins ces livres-là, j'ai l'impression, de moins en moins de succès. Et je vois monter, oui, justement, à travers la fiction, c'est-à-dire une appropriation intime, personnelle, de ce thème de l'écologie.
D'accord.
Et alors, qu'est-ce que vous... Plus globalement, pour parler des livres en général et de l'appropriation en fait, du sujet écologie par les maisons d'édition, si on parle de l'expérience du Felipe, au départ, quand le Felipe a été créé, des livres sur l'écologie, il n'y en avait pas énormément. Donc il y a du coup 22 ans, l'association a été fondée en 2023. Et l'idée, c'était de rassembler justement tous ces actrices du livre et de la presse d'écologie. Et donc ces livres d'écologie et en particulier d'écologie politique parce qu'il pouvait y avoir des livres qui parlaient d'écologie mais c'était de l'écologie scientifique pure, les sciences naturelles alors que l'écologie politique était portée principalement par des maisons d'édition indépendantes par exemple. Et donc pour revenir sur ce que disait Daniel.
Par exemple ?
Par exemple, c'est-à-dire ?
Oui. Les éditeurs dont vous parlez
Dans les éditeurs, par exemple, il y a Le Passager clandestin, Rue de l'Échiquier, qui d'autres on pourrait citer, qui sont là depuis le début, au Felipe. Ouais. Aussi, donc tout ça, en fait, il faisait partie de l'écosystème de départ. Et avec l'actualité, avec la COP21, avec Greta Thunberg aussi, qui a permis de mettre en avant les sujets d'écologie qui ont été saisis dans le débat public, et ben, les grosses maisons d'édition se sont aussi saisies des questions d'écologie. Et donc aujourd'hui, nous, au Felipe, on a la problématique complètement inverse, c'est qu'il s'agit en fait de faire le tri. On est complètement débordé par les livres d'écologie. Vraiment, le marché est, enfin moi en tout cas, je dirais qu'il est quand même assez saturé. Et en fait, cette année, l'année dernière, c'était vraiment un casse-tête de faire la programmation. On choisit des thèmes, mais il y a encore énormément de livres sur ces thèmes-là.
Donnez-nous des chiffres. Combien
C'est difficile à dire, il n'existe pas de chiffres sur... Là, c'est vraiment un ressenti qu'on a au Felipe. Mais en fait, il n'existe pas de statistiques sur les livres d'écologie. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. En fait, c'est vraiment nous qui sommes confrontés à ça de manière empirique, quoi, vraiment.
Enfin, il y a des grandes maisons d'édition qui ont donc une collection... Sur les questions...
Exactement, qui publient aujourd'hui des livres d'écologie et des livres d'écologie politique ou plus globalement sur le consumérisme. Je pense à Jeanne Guin notamment qui publie des livres sur le consumérisme là qu'on va inviter au Festival du Livre et de la Presse d'écologie qui a publié chez La Découverte. Enfin, de façon plus générale, en fait, les livres sur l'écologie se sont développés.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez choisi la jeunesse. C'est pour essayer de mieux cerner le sujet, non ?
Pas vraiment, non. C'est-à-dire que nous, on est pour la diversité, sans exclusive. Donc les jeunes, les vieux, pourquoi pas ? Enfin non, il n'y a pas d'action spécifique. Enfin si, il y a une action spécifique dans le Felipe pour les jeunes.
Je pensais que vous aviez là, cette fois-ci, vous aviez un prix du livre jeune.
Oui.
Mais on va parler de la jeunesse après la musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Yeah.
Eh bien, nous voilà de retour dans les arènes de l'écologie. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'était les Mekons. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, pour tout vous dire. En fait, c'est... Par contre, j'aime bien cette énergie, l'énergie d'une bande de punk quinquagénaire. Et donc, comme quoi, même les militants de longue date ont encore de l'énergie. Donc voilà, tout ça pour donner un peu de morale à tout le monde. Donc on revient, c'est vrai que l'écologie, c'est pas l'affaire du jour, hein. Ça commence à faire un certain temps maintenant qu'on s'occupe de ça. Par contre, on voit qu'il y en a toujours qui ont une terrible inertie. Mais bon, comment peut-on faire bouger les choses ? Est-ce qu'on est redevable de ça ? Est-ce que... Alors, justement, les livres de la jeunesse seront peut-être là pour aider à impulser une nouvelle dynamique.
Alors moi, je vais poser une question très naïve. Oui. C'est, est-ce qu'on a vraiment l'impression que la jeune génération ne s'intéresse pas à tout ce qui est livresque ?
Alors, c'est très difficile d'avoir un point de vue tranché sur une question aussi vaste, hein. Et nous, quand on parle de jeunesse, en fait, on s'intéresse à des tout jeunes. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour inviter les parents qui vont venir les 4 et 5 octobre à l'Académie du Climat pour le Félipé, à prendre connaissance de notre programme et de voir que nous, on commence avec... Enfin, on ne commence pas, mais nous avons un atelier, oui, de bébés. Donc... C'est un atelier qui se tient, qui s'appelle « Je vais t'aider, petite graine ». Et cette petite graine, c'est de 2 à 4 ans. Voilà. Donc, il ne s'agit pas pour nous de faire de la propagande. Hein, nous ne sommes pas les représentants de telle ou telle officine écolo, même si chacun de nous peut avoir des engagements. Mais justement, de diversifier au cours des âges. Et nous, on travaille surtout dans le prix du livre Jeunesse Écolo et donc dans notre programmation à hauteur d'enfant, on va dire pour des enfants entre 6 et 11 ans. Mais on leur propose des livres, mais on tient compte aussi des habitudes culturelles contemporaines. Donc il y a des ateliers.
Qu'est-ce qui a évolué ? Parce que les livres pour enfants ont toujours mis en avant les animaux. Il y avait Sophie la nature, girafe, la nature. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou...
Il y a toujours le style Père Castor, tout savoir sur les papillons ou sur le côté... scientifique entre guillemets ou une approche naturaliste, voilà, ça existe toujours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation, enfin de présenter quelque chose de plus engagé, c'est-à-dire toi enfant, comment tu peux créer ton petit chemin en prenant connaissance du monde tel qu'il est, tel qu'il ne va pas. Et aussi tel qu'il va, parce que on prend dans notre choix de livres que nous proposons à la lecture pour que les enfants ensuite votent et fassent, et eux seuls votent pour justement désigner le lauréat. Eh bien, il y a toutes sortes de livres qui parlent de l'émerveillement qu'on peut avoir devant la nature. Pas simplement la nature à observer, mais la nature dont on est partie prenante. Et qu'on trouve belle, extraordinaire, incroyable.
Question annexe, est-ce qu'il y a d'autres moyens que ceux qui concernent que les livres eux-mêmes ? Est-ce qu'il y a des moyens audiovisuels que vous avez aussi envie de mettre en avant ou,
Alors,
des BD
bien sûr. Je disais tout à l'heure que nous, on est vraiment fans de la diversité. Et la diversité des genres fait partie de nos objectifs. Par exemple, quand on choisit nos sélections, nos deux sélections de 6 livres pour le prix, il y a toujours une BD, effectivement. Il y a des romans graphiques. Parce que c'est aussi un genre qui se déploie de plus en plus.
Des romans graphiques, c'est-à-dire ?
Comme dans la revue Topo, par exemple, ou dans la revue Dessinée. Y a des romans graphiques, notamment...
François, tu n'en lis pas assez,
Si.
Une maison d'édition qui s'appelle Kilowatt, qui fait un énorme travail. C'est parce que les petites maisons... Il y a des grosses maisons, comme Actes Sud, qui font un gros travail d'édition.
C'est vrai.
C'est vrai. Mais s'il n'y avait pas les petites maisons d'édition souvent installées en province, tout ça se casserait la figure. Hein. Et c'est elles qui portent vraiment les politiques novatrices, notamment en termes de forme. Hein, je parlais du roman graphique.
Alors, le roman graphique, je ne connais pas très très bien, mais c'est quoi ? C'est de la BD ?
C'est proche de la BD, mais c'est un genre à part, nouveau, qui existe aussi pour les adultes. Hein, ce n'est pas réservé aux enfants.
J'ajouterais ça à un format peut-être un peu plus libre que la BD qui est très cadrée, qui a ses cases. Le roman graphique va un peu plus explorer et beaucoup moins normé que la BD classique. On le voit notamment au niveau des tailles des romans graphiques. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus dans l'exploration.
Mmh. Et sans compter que il y a souvent dans ces romans une intrigue avec de l'humour, avec une tonalité qu'on n'attend pas forcément au départ. Et je pense par exemple à un des livres qu'on avait sélectionné pour le prix 2025, édité chez Kilowatt, c'est « Sabarde au Svalbard ». Donc déjà, ça annonce la couleur, j'allais dire. Et c'est sur un sujet très difficile, c'est les réserves de semences. On ne dit pas réserve,
Le conservatoire.
Voilà, le conservatoire des semences qui se trouve dans le Grand Nord.
Tout à fait.
Ils arrivent à le mettre par ce biais-là à hauteur d'enfant. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est quelque chose de nouveau. Oui.
Alors, l'autre fois, je voyais aussi dans la salle d'attente de mon médecin, pour faire de l'observation sociologique, un monsieur très sportif, très. Le mal alpha, quoi, comme on dit, qui était en train de lire un manga. J'étais quand même surpris de voir presque un quadragénaire lire des mangas. Mm-hmm. Je me dis, mais bon, il n'a pas l'air attardé mental pourtant. Et donc ça veut dire quand même que les habitudes de lecture changent totalement, quoi.
Oui et non, parce que je pense que, par exemple, dans les écoles, moi, je vais beaucoup dans les écoles, dans les classes, accompagner les auteurs qui interviennent dans le cadre du prix. Je vois qu'il y a des méthodes relativement traditionnelles encore, où la maîtresse lit le livre. Alors après, bien sûr, il y a des appareils très modernes qui permettent de mettre le livre sous un projecteur et de le montrer à tout le monde. La maîtresse le lit et tous les enfants l'ont sous les yeux. C'est une autre façon de lire, hein, à la fois collective et individuelle. Mais bon.
Mais la lecture pour endormir son enfant, toujours court. J'imagine, on n'est pas prêt de le remplacer par des smartphones ou autre.
Je pense que tout existe de nos jours. Il faut s'attendre à tout. Pour ma part, je suis plutôt. La version nounours, et on raconte une petite histoire, voire on l'invente, hein, mais bon, après, c'est tellement intime.
Pauline.
Sur cette question-là en particulier ?
Oui, ou d'autres.
Sur la lecture, je pense que ce qu'on essaye aussi au Felipe, c'est de rendre accessible la lecture. Typiquement, l'atelier qui est cette année pour les très jeunes, Je vais t'aider, petite graine, qui s'adresse aux tout petits. En fait, c'est une lecture gestuelle. Donc en fait, la personne qui va réaliser l'atelier va mimer le livre, et c'est une manière pour les jeunes enfants de pouvoir s'intéresser à la lecture d'une autre façon. Et je crois aussi que en fait, il n'y a pas d'âge pour lire des livres. Par exemple, moi, via le Felipe, je lis des livres jeunesse que j'adore lire. Je trouve qu'ils portent des sujets qui sont super importants. Ils arrivent à vulgariser aussi des sujets qui le sont peut-être parfois pas forcément dans les livres pour adultes ou pas assez. Et par exemple, j'ai travaillé en pré-jeunesse à mon quotidien, au petit quotidien L'Actu, du groupe Playback Press, et moi j'adorais faire des sujets d'écologie parce qu'en fait on rentre aussi dans le fond des sujets, mais on les vulgarise pour tout le monde, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire au Felipe, et de pas catégoriser tel genre pour tel âge, etc.
Donc le livre écologique, c'est presque un carcan. L'écologie, on peut peut-être la trouver aussi dans les romans. Est-ce qu'il y a des romans qui abordent ces thèmes-là de l'écologie, comment ça se passe ? Moi, je m'intéresse aussi, me poser la question, comment l'écologie pourrait avoir du soft power ?
Heureusement qu'il y a des romanciers qui s'y intéressent. Oui. Et moi, je suis vraiment fan, alors je vais profiter de l'occasion pour le dire, de Richard Powers, qui est un auteur américain, qui a écrit un livre pour moi vraiment magistral sur la question, qui s'appelle « L'arbre monde ». Et c'est un livre qui est composé de plusieurs, on pourrait presque dire de plusieurs nouvelles. C'est un très gros livre, on pourrait dire une saga, hein, finalement, où l'écologie est au centre, mais il y a des personnages à foison, et des histoires à foison, sur un fond de...
C'est le Seigneur des Anneaux
Pardon ?
C'est le Seigneur des Anneaux en...
En mieux écrit, peut-être. C'est très, très bien écrit. Donc, mais il y en a d'autres, hein. Et heureusement.
Est-ce qu'il existe des polars écolos, dont du moins qui traitent ces questions ? Est-ce que le... Alors, il y avait une BD sur le remembrement, justement, sur une... qui vient de sortir il y a quelques mois, qui a fait aussi un beau succès. Est-ce que ces thématiques-là, il pourrait y en avoir des sujets
Alors, pour revenir sur le livre d'écologie, en fait, sur les romans d'écologie, c'est pas récent. Par exemple, on peut citer Romain Gary, qui a écrit Les Racines du Ciel en 1956. Et en fait, ce roman... Il dit tout déjà sur l'écologie, il parle d'une écologie décoloniale, il lie la question de l'écologie à la justice sociale. En fait, qu'est-ce que ça veut dire protéger les éléphants quand on a faim, quand on a besoin de manger ? Et en fait, ce roman qui date de 1956 déjà parle de tout ce qui nous intéresse aujourd'hui en matière d'écologie et ce qu'on porte aussi au Felipe. Et dans les romans d'écologie, c'est une thématique qu'on a particulièrement explorée l'année dernière. C'était notre thématique « Une écologie nommée désir » où on travaillait justement sur les imaginaires et on s'est rendu compte à quel point c'était important en fait de travailler ces imaginaires-là. Mmh. Et par exemple, au programme cette année, on a mis « Les mains vides » de Delio Postos qui est un roman fiction qui se passe en 2050 où en fait on nous propose un récit qui va à l'encontre de ce qu'on s'imagine quand on parle de la vie en 2050 en pleine crise climatique et
donc
environnementale.
C'est pas du catastrophisme.
Non, pas du tout. En fait, quand on pense à 2050, on se dit, bon, bah, apocalypse, il va y avoir des guerres, on va tous être en conflit. Et là, Elio Postos, grâce à son livre, il nous montre qu'en fait, peut-être pas, peut-être qu'on peut explorer d'autres avenirs, peut-être qu'en fait, il y a des coopérations qui vont s'instaurer, peut-être qu'effectivement, on pourra vivre en paix avec le monde vivant qui nous entoure, les humains comme les non-humains. Et en fait, c'est important d'avoir cette fiction-là et ces romans-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de porter au Felipe en particulier. Et pour revenir sur les polars, en fait, oui, ça a irrigué aussi d'autres genres. Et alors, j'ai plus le livre en tête. Il me semble que c'est Olivier Norek qui a écrit un livre où le point de départ, c'est le PDG Total qui se fait enlever par un père de famille. Et donc, on suit toute l'histoire qui s'ensuit. Il me semble que c'est Olivier Norek qu'il faudrait vérifier. Mais donc comme quoi, en fait, l'écologie irrigue d'autres genres.
Allègre FM 93.1.
Tu vois, donc il n'y a pas que Romain Gary, François.
Non, il y a Émile Ajar aussi.
C'est un peu normal parce que enfin, les auteurs, les autrices ne sont pas... dans une bulle, hein. Ils sont comme nous, ils sont attentifs au monde,
alors
au monde
justement, puisqu'on
autour,
parle de bulle,
hein, donc on n'a plus le réalisme en littérature, mais on a quand même une attention aux autres, une attention au monde, et donc on parle de l'écologie, comme on peut parler aussi de la guerre, ou qu'on peut parler des grands sujets actuels.
Moi j'aurais une question sur vos capacités de communiquer et de diffuser votre information. Vous vous y prenez comment ? C'est pas des petites affiches dans un tiers-lieu. J'imagine que vous avez aujourd'hui des moyens pour vous faire vraiment connaître, non ?
Bah, pourquoi pas les petites affiches dans un tiers-lieu, hein ? On tient beaucoup au côté quand même artisanal. On n'a pas du tout envie de devenir le festival du livre de Paris, de ceci, de cela, et d'être plus gros que le voisin. Non, non. Notre côté, justement, Académie du Climat, recevoir autour de 4000 personnes en un week-end, eh ben, c'est bien pour nous.
C'est déjà pas mal, 4000 personnes.
Oui, c'est bien. Mmh. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on va compléter, évidemment, quand on est...
Et je crois que ça fait partie de l'ADN du Felipe, ce côté un peu artisanal. Et on veut vraiment essayer de rendre accessibles les auteuristes, les journalistes. Donc en fait, c'est aussi une ambition de rester de petite taille. Et pour la communication, ben en fait, si on a nos petites affiches, nos petites marque-pages qu'on diffuse avec une équipe qui est principalement bénévole, puisqu'au Felipe, en fait, on n'a que deux salariés qui ne sont pas à temps plein. Donc on repose sur les bénévoles depuis, c'est une toute petite association depuis du coup plus de 20 ans. Ce sont les bénévoles qui tiennent l'association et en fait on essaye de se réinventer. Donc on est sur Instagram et par exemple Instagram c'était une question, est-ce qu'on reste ou pas sur Instagram quand on a vu tout ce qui s'était passé sur Twitter. Et donc ça a été une question collective, est-ce que on s'est posé la question dans l'équipe de communication, est-ce que oui ou non on quitte Instagram puisque Instagram aujourd'hui ne rentre pas dans les valeurs du Felipe. Et donc étant donné qu'on s'est dit que notre mission à nous c'était de porter le message des maisons d'édition indépendantes et des journalistes indépendants qui sont menacés aussi par l'invisibilisation sur les algorithmes, on a décidé de rester. Mais en fait, on essaye de se réinventer, mais on a des tout petits moyens, y compris pour notre communication, et on s'adapte en fait.
Petits moyens, mais par exemple, on est soutenu par la ville de Paris et peut-être que vous avez vu, moi je ne les ai pas encore vus, mais... du fait d'être soutenu par la ville de Paris, notre info est diffusée sur les fameux panneaux qui se trouvent dans les rues. Donc voilà, nous on n'est pas contre, on ne veut pas rester tout petit, etc. dans notre coin, mais essayer de diversifier, parce que diversifier c'est se diversifier en termes de public, c'est ça qui nous intéresse aussi, de ne pas s'adresser aux écolos patentés, connus, qui ont mon âge.
Oui, on a essayé aussi l'année dernière, en fait, il y a eu une journée interprofessionnelle qui a été organisée avec l'Association pour l'écologie du livre, par exemple, pour essayer d'aller au-delà, d'essayer aussi de toucher des publics professionnels, par exemple. Donc on essaye aussi de... En fait, ça marche beaucoup au réseau, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Je pense que malgré tout, on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux, même si on les aime plus ou moins. Mais
Et encore qu'on a des titres, des médias et des maisons d'édition. Je pense par exemple à La Lenteur qu'on accueille chaque année, au Felipe, je crois que ça fait 2 ans, qui n'a même pas de site internet. En fait, ils ont un site internet pour dire qu'ils n'ont pas de site internet et c'est un choix de ne pas être sur les réseaux sociaux.
Donc,
c'est pas mal. Voilà. Donc,
on ira les voir. Voilà. Donc on n'a pas d'autre moyen que de leur.
Exactement, c'est un bon moyen pour
venir monter les marches pour
les voir.
L'Académie du Climat.
Oui, ce sera pour leur dire qu'on est, on n'a plus de radio.
Voilà, on va écouter une petite musique en attendant. Alors justement, vous allez voir, c'est un auteur, un musicien un peu particulier, puisqu'il est agriculteur dans les Alpes.
Oh, ami. La paix à ton âme, viva Pitou, la paix à ton âme, tu vas nous manquer, ami, tu vas nous manquer, tu vas nous manquer, paysan, tu vas nous manquer, oh, 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 oh ami. Un ami, un paysan, paysan, c'est un groupeur, un camarade, camarade, ton beau sourire fleurira dans nos cœurs, nous te disons. humblement, merci. Tu vas nous manquer, ami, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, camarade, tu vas nous manquer. Oh, 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 ami. Oh, 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 camarade. C'est un ami, un paysan, paysan. C'est un copain, un camarade, camarade. Ton beau sourire fleurira pour toujours, toujours. Nous te disons humblement merci. Qui part en fleurs, la paix à ton âme. Qui va pitou, la paix à ton âme. Tu vas nous manquer, ami, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, camarade, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, bidou, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, vivant, tu vas nous manquer. Oh, 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 ami.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie pour parler du Festival du Livre Écologique, le Félipé, donc qui se tient ce week-end à l'Académie du Climat.
Alors, le Festival du Livre d'Écologie.
D'écologie.
D'écologie. Ah,
d'accord.
Et de la presse.
Voilà. Et de la presse.
Ah, pas oublier la presse.
Oui, c'est vrai
ah,
que
justement, ça
justement vous avez des journalistes en face de vous.
Et puis, on voulait savoir un peu qu'est-ce qu'il existait comme publication, comme revue, que ce soit hebdomadaire ou mensuel ou trimestriel, qui traite de ce sujet-là
spécifiquement.
Spécifiquement.
Moi, j'ai envie de parler des revues pour la jeunesse, bien sûr. Puis Pauline me parlera des autres revues. Celle qui nous a soutenus et que nous présentons toujours, c'est la revue qui s'appelle La Salamandre, qui se décline en trois revues, en fait. Une revue pour adultes, et La Salamandre Junior, et puis La Petite Salamandre pour les enfants à partir de avant même qu'ils lisent, quoi. Donc et c'est une revue très attractive, fondée par Julien Perrault, qui, ouais, c'est un Suisse qui, alors qu'il était tout jeune, vraiment jeune, quoi, gamin, avait envie de... Il vivait dans la nature, là, s'était mis à faire une petite feuille de chou. Et puis maintenant, il doit avoir, je ne sais pas, plus de 40 ans, peut-être 50. Oh, et il est toujours en train de faire, de proposer ces trois revues. Alors, je n'ai pas le tirage là, mais c'est des revues vraiment importantes, hein, basées en Suisse et à Toulouse, d'ailleurs, pour...
Avec Milan, non ?
Non, je pense qu'il est tout seul.
Indépendant.
Et d'ailleurs, ils ont un festival qui se tient à côté de Lausanne chaque année à l'automne, qui est un festival, je dirais, plus naturaliste que nous ne le sommes, nous, mais où les livres ont aussi leur place, les livres, les ateliers, etc. Et, bon, autour de l'écologie, c'est vraiment moderne, d'autant qu'ils font des petites vidéos auxquelles on peut avoir accès gratuitement sur tout un tas de bestioles, les chants des oiseaux des curiosités naturelles qui sont toujours renouvelées.
Alors l'écologie, c'est pas que la nature, hein, c'est aussi des choses aussi rigolotes que les déchets, les polluants, ce type d'agression. Bon, on en parlait tout à l'heure, les limites planétaires qui tombent les unes après les autres. Alors comment, aujourd'hui, c'est des livres qui pamphlaient, ouais. Il y en a eu beaucoup? Est-ce qu'ils font des tirages suffisants? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'au festival, vous avez un peu des indicateurs sur les sujets qui marchent entre parce qu'il y a aussi les climato-sceptiques qu'on pourrait rentrer dans le champ de l'écologie, alors peut-être pas du bon côté, mais bon.
Ou l'anthropocène pour les nuls.
Oui. Mmh. Alors, Pauline, ces sujets, alors qui sont plus forcément jeunesse, mais qui sont
et qui sont pas forcément nature.
Alors sur les sujets qui marchent, honnêtement, je serais bien incapable de répondre, mais c'est vrai qu'il y a eu des livres climato-sceptiques et je pense à un article de reporter qui a été publié en décembre 2024 qui expliquait donc que pour Noël, donc sur la plateforme Amazon, parmi les trois livres les plus offerts dans la section climat uniquement, dans le top 3, il y avait deux livres qui étaient climato-sceptiques. Donc ça dit quand même quelque chose. Donc c'est uniquement sur la plateforme Amazon. Après, sur les sujets qui marchent, honnêtement, je serais bien incapable de vous répondre.
Bah, les éditeurs, vous aurez des éditeurs au salon. Il y a peut-être des débats qui se... Donc salon, au festival.
Oui.
Aujourd'hui, que disent les... Parce que nous, on est des auteurs en puissance, hein, Ben.
Que disent les éditeurs?
Voilà. Est-ce qu'ils ont des axes qu'ils veulent privilégier, des attentes particulières?
Je crois qu'on peut difficilement se faire les porte-parole des éditeurs, hein, parce qu'ils sont extrêmement divers,
oui.
et les collections aussi. Mm-hmm. Et par exemple, je pourrais dire que la collection L'Anthropocène est venue fêter ses 10 ans, je crois, il y a 2 ans. Au Felipe, c'était une super soirée. Donc, une collection de cette exigence-là, qui dure déjà depuis 10 ans, c'est intéressant. Après, ce n'est pas des livres lus par des milliers de lecteurs. Et qu'on parle d'écologie ou d'autre chose, on a beau dire que pendant le confinement, après le confinement, ça y est, tout le monde s'était mis à lire, etc. Les chiffres, enfin moi je n'ai pas des chiffres sur l'écologie, et personne n'en a vraiment, mais on sait que depuis le mois de janvier, il y a une baisse très sensible des ventes en librairie de toutes sortes de livres, que ce
et
soit
comment vous l'expliquez?
Une raison simple, c'est le pouvoir d'achat, hein. Donc les gens achètent moins de fruits et légumes, mais ils achètent aussi moins de livres, et peut-être que les loisirs aussi pâtissent quand c'est pas les choses essentielles. Donc ce serait vraiment curieux que le livre soit hors de cette atteinte générale au pouvoir d'achat.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Est-ce qu'il y a des locomotives?
Parce
quand
que, oui, peut-être. Moi, je pensais, parce qu'on a laissé de côté la question de la presse tout à l'heure. J'ai répondu pour la presse de jeunesse, mais dans le studio, évidemment, les auditeurs ne le voient pas, mais nous avons en face de nous une affiche de Vert, et nous sommes très liés avec Vert. Le média, voilà, dont il est trop tard pour être pessimiste, nous adoptons absolument ça. Et peut-être que maintenant, on est plus habitué, enfin, dans les formes d'intérêt des gens, des lecteurs, à lire gratuitement sur
smartphone.
Sur son smartphone, plutôt que de faire la démarche d'aller chercher un bouquin ou alors on va aller chercher une revue et surtout de l'acheter. C'est vrai, peut-être aussi il y a un gros développement dans les bibliothèques par exemple, ça c'est vrai, des bibliothèques même qui sont consacrées spécifiquement à l'écologie. Je ne parle pas simplement
à Paris.
Oui, mais pas simplement à Paris, hein. J'ai dit, je vais souvent en province entre guillemets, j'aime pas trop le mot,
Provence,
mais voilà, en Provence par exemple, la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, qui est une très très grosse bibliothèque, où Felipe va intervenir bientôt, eh bien, les bibliothèques font un énorme travail de diffusion. Et c'est précieux parce que c'est vrai que je sais, je, franchement, moi je suis fâchée avec les chiffres, je ne m'avancerai pas sur tel montant, mais le relais collectif est important parce que ça ouvre aussi sur des discussions. Et c'est aussi nous, c'est pour ça qu'on fait le festival. C'est pas simplement pour vendre des livres. Nous, c'est pas nous qui les vendons. On demande à une libraire de faire la librairie éphémère. Mais c'est aussi pour susciter des dialogues et des rencontres.
Alors justement, comment ça se passe ? Il y a une librairie, on peut acheter des livres au Felipe.
Oui, il est interdit de les voler. Hein. D'accord. Voilà, on vient pour acheter. Hein.
On a un salon. Donc on a tout un espace qu'on dédie donc aux tables rondes, aux échanges avec les autoristes. On a aussi des ateliers qui vont se dérouler tout au long du week-end, mais on a aussi un salon qui se tient samedi et dimanche, qui regroupe un peu plus d'une trentaine d'exposants avec des médias donc indépendants, avec des maisons d'édition principalement aussi indépendantes et avec aussi des associations. Voilà, donc ils seront présents tout au long du week-end avec des livres, avec des titres de presse.
Pouvez-vous citer quelques noms ?
Bien sûr. Alors, dans les maisons d'édition, on a par exemple Cambourakis, les éditions du Pourquoi pas, Hors d'atteinte, La lenteur, Le passager clandestin, Rue de l'Échiquier.
Rue de l'Échiquier qui n'est pas Rue de l'Échiquier, j'ai voulu les appeler. Parce que bon, j'ai habité rue de l'Échiquier, je me suis dit, ah ben voilà, un voisin. Mmh. Et ben non, ils sont avenue Jean Jaurès, c'est ça ?
Oui, je crois. Mmh. Ils ont peut-être déménagé depuis leur création. Peut-être qu'ils étaient vraiment rue de l'Échiquier, je n'en sais rien. Et pour la presse, on a...
Je leur en veux pas.
On a des titres de presse comme Reporter, comme Socialter, Fracas, Dardard.
Politis.
Politis aussi, après François. Lui qui sera là.
C'était Iceberg, non ?
Oui, l'iceberg. On a justement aussi des nouveaux médias comme l'Iceberg qui a été lancé récemment. Et on a aussi cette année pour la première fois un média qui ne parle pas que d'écologie, mais qui réinvente un peu dans la démarche journalistique la manière de faire du journalisme, qui est la revue Invendable. C'est une toute petite revue.
La revue Invendable.
Et donc on a aussi l'auteur qui participera à une table ronde... Qui s'appelle Soigner le monde en soignant le journalisme. Et en fait, pourquoi Invendable ? En fait, il explique qu'il y avait plein de sujets qu'il n'arrivait pas à vendre aux médias et qui lui semblaient importants. Donc en fait, ils ont décidé avec un collègue, un ami, de créer cette revue Invendable pour parler de tous ces récits de vie qu'il n'arrive pas à publier dans les médias traditionnels. Et donc il a écrit un ouvrage qui s'appelle Pisser dans les cours d'eau et où en fait c'est un rassemblement de ses reportages. Il traverse la France, il traverse les États-Unis, il traverse la Russie et il va vraiment à l'encontre des gens. Il va pas chercher une information, il raconte le quotidien des gens et en fait il apporte de la complexité au sujet. En fait c'est jamais du pour ou contre. Et c'est toujours nuancé, c'est pas pour ou contre l'écologie, donc c'est pour ça qu'on l'invite aussi, parce que cette démarche journalistique d'aller chercher la complexité est intéressante. Et là-dessus, je pense bien sûr aussi au livre de Nina Facio, Malentendu, qui sera aussi présent. Alors, le livre Malentendu, c'est un livre qui est sorti aussi cette année, donc si vous voulez en savoir plus, venez à la table ronde qui a lieu dimanche. Alors, attendez, je vérifie l'horaire, c'est 15h-16h15. Qui sera animé par Béatrice Hérault,
dont on a présenté le livre avec Valérie Laramé il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus.
Exactement, oui, j'ai vu que le livre était passé dans l'émission. Et donc Nina Facio, dans son livre Malentendu, en fait, elle fait le constat que le journalisme a contribué à diviser la société en niant un peu la complexité des sujets, en tronquant, en ayant une difficulté en fait à écouter et à aller vraiment creuser dans la complexité des sujets. En fait, aujourd'hui, c'est souvent pour ou contre ces sujets. On va jamais creuser au-delà de ça. Quand on interview quelqu'un, et je suis journaliste aussi par ailleurs, et c'est des reproches qui nous sont faites, c'est en fait, on a coupé la moitié de l'interview, on va garder la petite citation qui va bien et qui nous arrange, qui va dire le pour ou le contre, alors qu'en fait, les témoignages sont en général ce qu'on récolte, beaucoup plus complexes que ça.
Exactement. Et là, on peut répondre aussi en tant qu'artisan de la chose, parce que nous sommes nous-mêmes journalistes. voudrais préciser quand même que ce n'est pas forcément les journalistes qui tronquent.
Bien sûr.
C'est souvent leur hiérarchie, leur rédac-chef, pour ne pas dire leur patron. Et il ne faut pas perdre ça de vue. C'est que ce qu'on voit dans les journaux, ce n'est que le résultat du tamisage fait par un processus de rédaction et d'entreprise, entre guillemets. Et fréquemment, je me reconnais moi un peu dans ce terme, les invendables, parce que quand on allait proposer des piges, comme ça qu'on appelle, quand on est journaliste indépendant, des articles aux journaux, on nous demandait toujours de leur proposer des articles qui n'étaient pas parus, dont innovants, des scoops, des trucs. Puis quand on arrivait avec un sujet vraiment un peu original, on nous disait systématiquement, mais c'est paru où ? Bah ouais, si c'est nulle part, parce que vous nous avez demandé un scoop. Ah bah oui, mais on peut pas être certain que vous avez raison. Donc hop, tout ça se passait à la trappe. Et puis il y avait aussi un autre cas de figure. C'était le rédac chef qui connaissait les réponses avant de poser les questions. Et ça, c'est un grand classique aussi.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'elle explique dans son livre, que les journalistes, en fait, il y a plein aussi de la désillusion, notamment chez les jeunes journalistes, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, on peut pas faire ce qu'on veut, qu'il y a aussi un rythme, et ça s'est accéléré avec l'arrivée d'Internet et les réseaux sociaux où il faut aller toujours plus vite, et ça, en fait, ça oppresse aussi les journalistes qui sont obligés de faire plus vite.
Et en fait, quand ils vont... complexité.
Exactement, en fait, ils vont sur le terrain, ils ont l'angle dans la tête, ils savent plus ou moins ce qu'ils vont écrire, et ils vont juste aller chercher les citations qui vont bien pour pouvoir à écrire le papier qu'on leur demande de rendre vite. Et donc Nina Facio
confirme la thèse déjà.
Voilà, exactement. Et en fait, ce que dit Nina Facio, c'est que les journalistes n'écoutent plus. Et c'est pas forcément de leur faute. Les journalistes aimeraient écouter, mais en même temps, on n'apprend pas en école de journalisme aux journalistes à écouter. Et donc, elle donne plein de pistes dans son ouvrage que vraiment je recommande à tous ceux qui lisent des médias ou des actrices de la presse. Elle donne plein d'outils.
Et ça s'appelle ?
C'est Malentendu, de Nina Facio, que je recommande vraiment, donc elle sera là aussi. Voilà, donc on a aussi des revues et des livres qui ne concernent pas spécifiquement l'écologie, mais qui, parce que l'écologie est beaucoup plus globale, en fait, la concerne forcément.
Bon, bah écoutez, je crois que la conclusion s'impose, c'est rendez-vous... à 11h, donc, dès samedi matin à...
Oui, pour une balade à 11h, hein, parce que l'académie ouvre à midi, mais...
Non, si, on a une table ronde, notre table ronde d'ouverture à 11h30, qui peut-on s'adapter ? On va s'interroger, du coup, sur notre thématique.
Alors, donc, l'Académie du climat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très loin de l'Hôtel de Ville, c'est
Place Baudoyer.
Baudoyer, et le métro...
Hôtel de Ville.
En plein centre de Paris, voilà. C'est facile de venir, c'est gratuit, ouvert à tous.
Oui, tout est gratuit, 100% gratuit.
Bon, bah écoutez, on remercie la technique, encore mille excuses à Dalia pour nos problèmes de connexion, mais bon, on fera mieux la semaine prochaine.
Et puis merci surtout.
Ben, je compte sur toi. Hein.
Merci à vous.
Merci de votre invitation.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Bonne semaine. Et puis,
vous écoutez Aligre FM 93.1.